Comme les meilleurs parents du monde, garantissez la scolarité de vos enfants quoi qu'il vous arrive avec l'assurance éducation. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Dans Priorité Santé, aujourd'hui, nous allons parler de la sexualité épanouie. Pour l'Organisation mondiale de la santé sexuelle est l'une des composantes de la santé globale. Elle fait donc partie intégrante de la santé, du bien-être, de la qualité de vie dans leur ensemble. Et cela implique un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social en relation avec la sexualité. Une harmonie qui implique, toujours selon l'OMS, une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations, ainsi que la possibilité d'avoir des expériences sexuelles agréables et sûres, sans contrainte, sans discrimination, sans violence. Un épanouissement indissociable donc du respect, de l'écoute. Alors qu'est-ce que signifie pour vous une sexualité épanouie? Qu'est-ce qui y contribue? Rencontrez-vous des difficultés particulières? Est-ce que c'est une quête ou est-ce que c'est une réalité? Nous attendons vos questions, vos témoignages tout au long de cette émission et bien sûr, cet appel s'adresse à nos auditrices et nos auditeurs. Une émission complète, une heure pour poser vos questions au docteur Catherine Solano, sexologue, qui est avec nous pour écouter vos témoignages, répondre donc à toutes vos interrogations. Docteur Solano, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous nos auditeurs.
50 minutes donc pour échanger sur ce thème. Et vous êtes déjà nombreux au 33 1 84 22 75 75.
Priorité santé sur RFI.
Alors, docteur Catherine Solano, quand on entend le terme d'épanouissement, on peut penser à la nature, à une fleur, un sourire qui éclaire un visage. Qu'est-ce que l'on doit comprendre derrière ce terme d'épanouissement quand on parle de sexualité?
Eh bien, de mon point de vue, l'épanouissement sexuel, c'est tout simplement se sentir heureux dans sa sexualité. C'est pas tellement faire durer un rapport sexuel tant de minutes, avoir tant de rapports sexuels par semaine, avoir un orgasme à chaque fois, avoir un indice de satisfaction au maximum. Non, c'est se sentir heureux. Voilà. Et c'est peut-être flou, mais c'est beaucoup plus important le ressenti que la technique, je dirais.
Ça ressemble vraiment à du bien-être, hein, pour le dire clairement, Catherine. Pas question de performance, mais justement de bien-être.
Voilà, de bien-être, et j'utiliserais même un autre mot, c'est de joie. Ce qu'il faut, c'est que la sexualité vous donne de la joie. Parce que normalement, la sexualité, ça devrait être un jeu entre adultes, et pas tellement une prestation de service où on vous mettra une note, comme ça se fait maintenant beaucoup sur Internet, vous voyez. À partir du moment où vous vous amusez, où vous avez de la joie à le faire, que ça soit parfait ou qu'il y ait des petites difficultés et tout, c'est pas forcément grave, ça fait partie de la vie.
C'est pour ça que souvent quand les auditeurs vous parlent aussi bien de nombre de rapports, ouais, que de taille du sexe, tout ce qui est quantifié, tout ça, ouais, ça n'a pas vraiment à voir avec l'épanouissement sexuel,
ben
c'est autre chose.
Je suis d'accord avec vous Caroline, et il y a un mot que j'aime pas du tout, qu'on utilise, que les auditeurs ou mes patients utilisent, c'est la satisfaction. Je ne satisfais pas ma femme ou elle ne me satisfait pas.
Ça c'est me pas fait une consommation.
Ben non, ça me fait penser à satisfait ou remboursé, vous voyez. Ben non, la question, c'est pas d'être satisfait, c'est d'être joyeux et d'être content.
Alors, c'est ce qu'on va entendre au cours de cette émission avec tous vos conseils, bien sûr, docteur Solano. Sans plus tarder, on prend tout de suite en ligne les questions, les témoignages des auditeurs de l'émission. Et première auditrice avec nous, elle est en ligne du Cameroun de Yaoundé, c'est Emmanuel. Emmanuel, bonjour.
Bonjour madame.
Le docteur Catherine Solano est à votre écoute, allez-y.
J'ai un problème. Mm-hmm. Je ne suis pas épanouie dans ma relation sexuelle en ce moment, parlant avec mon copain, parce qu'il a un pénis très énorme et nous sommes allés à l'hôpital. On m'a prescrit des lubrifiants et des ovules pour dilater mon vagin, mmh, lors de l'acte sexuel. J'ai essayé cela, ça n'a pas marché. On m'a allé encore à l'hôpital, on nous a demandé, le médecin a demandé à mon fiancé d'utiliser une bague. Il va placer une bague au niveau de son pénis, qui va recrécir son pénis au fil du temps. Et le véritable problème, c'est qu'il n'a pas adhéré à cela, parce que nous, en Afrique, c'est un bien naturel. Il a refusé, je l'aime tellement. Et du coup, je me suis retrouvée à le tromper avec d'autres hommes. Et je me suis rendue compte que c'est moi le problème parce que j'ai l'impression que j'ai un vagin très rétréci.
Alors, il y a une question qui se pose. Il y a une question qui se pose. Donc, vous parlez de ce rapport au corps de votre compagnon. Docteur Catherine Solano, j'imagine que vous avez des questions à poser à Emmanuel, notamment sur la nature de leur relation et comment ça se passe, justement, dans leur relation.
Oui, parce que si vous voulez, ce que je peux dire, c'est que vous dites, je me demande si mon vagin est trop petit, trop serré. En fait, le vagin, il est normalement serré au repos, c'est-à-dire que c'est une fente, mais qui est fermée, les deux parois se touchent. Et il peut se dilater, mais seulement sous certaines conditions. Il peut même se dilater beaucoup. Quand on accouche, par exemple, un bébé passe, c'est gros un bébé quand même, même si c'est petit à la naissance, c'est pour passer par là. Mais il y a des conditions pour qu'il puisse se dilater. Pour l'accouchement, ça va être les hormones de l'accouchement et de la grossesse qui rendent les tissus plus élastiques. Et pour un rapport sexuel, bon, c'est les hormones aussi, mais c'est beaucoup les préliminaires, les caresses qui vont faire qu'il va y avoir une lubrification, bon, une humidification du vagin, mais aussi une relaxation de tous les muscles autour et une capacité à se dilater. Si une femme est stressée, a peur d'avoir mal, se contracte, s'il n'y a pas du tout de préliminaire et pas d'excitation, ben le vagin il reste fermé. C'est difficile de faire une pénétration qui soit agréable.
Est-ce que c'est votre cas, Emmanuel ? Est-ce qu'il y a des préliminaires avant l'acte en lui-même ?
Il y a toujours eu des préliminaires.
Mmh. Il y a toujours des préliminaires.
Est-ce oui, que... je suis très lubrifiée, en fait.
Ah, vous avez une bonne lubrification. Ok. Alors, moi, à mon avis, c'est que vous êtes très stressée au moment de la pénétration. Parce que comme vous avez mal, comme souvent vous avez mal, la fois suivante, vous avez peur d'avoir mal. Est-ce que vous ressentez ça ?
Oui.
Et donc...
C'est tellement douloureux.
Ouais. Alors le problème, c'est que plus on a peur, moins on se relaxe. Si vous voulez, la peur fait qu'on contracte les muscles. Et donc ça veut dire que vous avez, je pense, à minima, ce qu'on appelle un peu un vaginisme. C'est-à-dire que c'est pas un vaginisme complet. C'est-à-dire un vaginisme complet, c'est une femme qui peut pas avoir du tout de pénétration parce que son vagin se serre très très fort. Vous, j'ai l'impression qu'il se serre un peu moins fort, mais au lieu de se relaxer. Est-ce que vous avez cette impression-là ?
Oui, effectivement, c'est ça même le problème.
Docteur Solano, comment est-ce qu'on explique justement cette impossibilité, ce terme que vous employez de vaginisme ?
C'est lié à la peur, en fait. Alors, c'est pas toujours une peur qu'on ressent émotionnellement, mais c'est le corps qui a peur. Et souvent, ça peut être lié à une mauvaise expérience sexuelle. Par exemple, un examen gynécologique chez une petite fille ou ça peut aussi être une agression sexuelle, mais c'est moins souvent, c'est plus des accidents un peu de la zone sexuelle ou des maladies de cette zone-là qu'on a dû examiner, etc. Et ou des choses qu'on a entendues ou vues en se disant mais ça doit être horrible de faire l'amour, ça te fait mal, vous entendez quand vous êtes petite, du coup ça vous marque beaucoup et votre corps dit mais moi je veux pas faire ça. Voyez des choses comme ça. Est-ce que vous avez eu des mauvaises expériences ou entendu des choses qui auraient pu vous faire peur comme ça?
Quelquefois, j'ai eu à écouter des histoires où c'est très douloureux, mais je suis coincée parce que j'ai déjà un souvent. Donc, du coup, c'est pas comme si je ne connaissais pas ça.
Donc il y a plusieurs choses. Qu'est-ce qu'on peut faire, c'est ça. Donc le lubrifiant, c'est très très important parce que si vous voulez, ce qu'il faut, c'est que plus on essaye et plus on a mal, plus le vagin se crispe et se serre. Et donc il faut absolument réussir à avoir une pénétration sans douleur. Comment on fait ça? D'abord, on peut commencer par faire une pénétration seulement avec un doigt. Par exemple, votre partenaire, de mettre du lubrifiant sur son doigt, ou même vous entraîner pour votre vagin, pour qu'il sente qu'il ait des expériences non douloureuses, que ça marche facilement. Après, en mettant deux doigts, et ensuite, avec le pénis, il faut mettre énormément de gel sur le pénis, à l'entrée du vagin aussi, sur la vulve, mais sur le pénis, parce que sinon, si vous voulez, une fois qu'il rentre un petit peu plus loin, il n'y a pas de gel à l'intérieur, et là, ça fait mal. Et il faut en mettre beaucoup, beaucoup, à la limite, il vaut mieux que ça glisse trop, de manière à ce que vous réussissiez à avoir des rapports sexuels qui vous fassent pas mal. À partir du moment où ça vous fera déjà déjà moins mal, vous aurez moins peur, votre corps se contractera moins et petit à petit, ça devrait aller mieux.
D'accord.
Voilà, alors j'ajoute quand même une chose, hein, c'est que cette histoire de bague pour rétrécir le pénis, c'est, enfin, je vais le dire franchement, c'est n'importe quoi. On ne peut pas, c'est comme si on vous disait on va vous mettre une bague pour rétrécir vos pieds, vous chaussez du 40, vous avez envie de faire du 38, ou si vous va rétrécir votre cerveau en faisant quelque chose. Non, on ne peut pas rétrécir le pénis par des manœuvres comme ça, c'est pas possible. Donc chez le médecin, je pense que le médecin s'est trouvé un peu coincé, il s'est dit il faut que je trouve quelque chose à tout prix, et il a trouvé quelque chose d'assez bizarre. Hein.
Voilà Emmanuel, tous ces conseils, on a compris, hein, en toile de fond, beaucoup de douceur, hein, ouais. Catherine Solano, mmh. pour justement essayer de se défaire de cette peur.
Vous avez raison Caroline, surtout le conseil que vous rajoutez, c'est qu'il ne faut pas forcer, parce que si on a mal et qu'on se dit tant pis, je serre les dents, je suis tellement amoureuse, il faut que ça passe, ben, votre corps, vous l'agressez encore plus et il a encore plus peur à la fois d'après. Donc il faut aller très 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 doucement.
Voilà Emmanuel, une très bonne journée à vous à Yaoundé. On part pour la Guinée, pour Conakry, où l'on retrouve Junior. Bonjour Junior.
Oui, bonjour madame.
Le docteur Solano est à votre écoute, allez-y.
Bonjour docteur Solano.
Bonjour.
Oui, en fait, depuis longtemps j'ai expliqué mon problème à madame Caroline. Je suis avec ma partenaire, mais à chaque fois qu'on veut faire des relations sexuelles, elle dit de commencer par les caresses, on nous... Mais au début, en fait, elle était vierge d'abord. Mm-hmm. Mais au fur et à mesure qu'on a évolué, on est ensemble, ça fait déjà 6 ans. Mais au fur et à mesure qu'on évolue, elle s'est donnée maintenant cœur et âme avec moi. Et elle a accepté de me donner sa virginité. Mais à chaque fois qu'on veut faire des relations sexuelles, après les caresses, lorsqu'on veut faire l'acte sexuel, déjà, elle me repousse. Je ne sais pas qu'est-ce qui cause cela.
Docteur Solano.
Donc, ce que vous dites, c'est qu'elle veut bien des caresses, mais pas de pénétration. C'est ça, en gros. Elle vous repousse.
Oui, on peut faire des caresses, on peut faire tout ce qu'il faut, mais lorsque je suis prêt, s'il y a une pénétration, c'est là qu'elle me repousse, qu'elle ne ressent plus rien pour le moment. Quoi.
D'accord.
Est-ce qu'elle vous a exprimé le fait qu'elle voulait avoir des relations sexuelles éventuellement une fois que vous serez mariés, ou c'est quelque chose dont vous n'avez pas parlé ensemble?
Non, on n'a pas décidé s'il faut le sexe avant le mariage ou quoi. Depuis que nous sommes ensemble, je ne l'ai jamais promis pour le mariage quand même.
Mmh. Et non. Vous avez l'impression que c'est peut-être important pour elle ou pas?
Bon, même si c'est important pour elle, mais comme elle ne me l'a pas encore parlé...
Ah oui, parce que j'ai l'impression qu'elle vous repousse, mais est-ce que vous lui avez demandé pourquoi tu me repousses? Pourquoi tu ne veux pas qu'on aille plus loin? Explique-moi ce que tu ressens. Et vous lui avez posé cette question?
Comme je l'ai dit à l'entame de l'émission, je l'ai posé tant de questions, mais jusqu'à là, elle me dit que vraiment, elle ne sait pas si elle est entraînée par un corps étranger, mais qu'elle ne sait pas ce qui le pousse à me repousser quand même.
Ah oui, elle sait elle-même, elle vous dit, je ne sais pas pourquoi je ne peux pas, d'accord. Ben, en tout cas, même si elle ne sait pas, il y a sûrement une raison. Souvent, c'est la peur. Et il faut lui demander, est-ce que tu as peur? Parce que, et si elle a peur, de quoi? Est-ce qu'elle a peur d'avoir mal? Est-ce qu'elle a peur que vous vouliez juste coucher avec elle et la rejeter après? Est-ce qu'elle a peur d'être enceinte? Parce que je ne sais pas si vous avez une contraception aussi, parce que pour beaucoup de femmes, c'est quand même une question importante de se dire, ben, est-ce que vous mettez des préservatifs? Est-ce qu'elle prend une contraception? Vous voyez? Ça, de ce côté-là, vous en avez parlé? Est-ce que vous voulez des enfants?
Bien évidemment, si c'est pour la contraception, j'en utilise aussi.
Oui, d'accord.
Voilà, j'utilise des préservatifs, je fais... En tout cas, tout ce qu'elle me demande. On d'accord. le fait parfois, hein, mais à chaque fois qu'on fait, et actuellement, même quand on le fait, elle me dit qu'elle ressent des maux de ventre.
D'accord. En fait, peut-être qu'elle veut pas le faire parce qu'elle a mal après. Alors, est-ce que vous le faites très, très doucement? Parce que ça, c'est une méthode aussi, parce qu'il y a des femmes... Si vous voulez, le problème, c'est qu'il y a énormément de femmes qui ont été élevées en disant « il faut pas exciter les hommes, il faut pas montrer son désir, sinon on n'est pas une femme bien, on va être considérée comme une femme de mauvaise vie, il faut pas coucher avant le mariage, etc. » Du coup, une fois qu'une femme peut avoir des relations sexuelles...
Ça bloque.
ça bloque, elle est encore crispée par tout ça. Nous, on voit ça souvent en consultation. Hein. Et du coup, je ne sais plus ce que je voulais vous dire, mais peut-être...
La douceur. Toujours la douceur.
Voilà, beaucoup de douceur, une pénétration très doucement. Et alors, ce qui est important, c'est peut-être de lui dire, écoute, si pendant un rapport sexuel, tu as mal, tu me dis stop. Parce que, si vous voulez, le corps qui a peur d'avoir mal se crispe. Si il se dit, je lui dis stop une fois, il a arrêté tout de suite, donc il est rassuré et donc il aura moins peur d'aller plus loin, vous voyez ?
Je vois.
Ce qui serait bien, ça c'est très important parce qu'il y a des hommes qui disent oui, mais s'il faut faire ça, c'est pas marrant. Non, mais si on le fait 3-4 fois et qu'après ça marche pendant 20 ans, ça vaut la peine. Une autre chose aussi qui est peut-être importante, c'est de pratiquer des caresses à l'intérieur du vagin avec un doigt. Je ne sais pas si vous le faites. Bon, là, je donne des conseils très pratiques, mais c'est important. Hein, parce que si vous voulez un doigt, c'est plus petit qu'un pénis en général. Et comme ça, ça fait moins mal. S'il y a une crispation, ça force moins. Et si vous lui faites des caresses à l'intérieur avec un doigt, il ne s'agit pas juste de rentrer un doigt, mais c'est de faire des caresses très doucement pour que son vagin se dise « Ah, mais finalement, ça peut me faire du bien, ça peut être doux et agréable. » Et donc, il aura moins peur la fois suivante, vous voyez ?
Et je vois. Au début, elle me disait que vraiment, que c'était pas bien fait, les caresses, mais quand on est allé chez un médecin, il nous a donné des lubrifiants. Mm-hmm. Mais à chaque fois qu'on veut commencer, j'ai des lubrifiants avec quoi j'applique sur son corps.
Oui.
J'applique, je vais dire, sur sa partie intime, le vagin ici, à l'extérieur. D'accord. Comme à l'extérieur.
Ah,
comme
oui.
À l'extérieur.
Et bien, en l'appliquant, il faut faire des caresses, pas juste, vous voyez, l'appliquer comme on tartinerait. Du pain, non, mais je veux dire faire des caresses. Écoutez, ce que je vais vous dire, c'est que vous êtes formidable. Je vous entends, je vois que vous êtes attentionné. Vous faites ce qu'elle vous dit. Vous utilisez des préservatifs. Vous lui faites des caresses. Vous l'emmenez voir un médecin. Et je vais vous dire, elle a de la chance d'avoir un ami comme vous, quand même. Je tiens à le dire. Et alors, une autre question qu'il faut lui poser, c'est as-tu eu une mauvaise expérience sexuelle ? Parce qu'il y a des femmes qui ont un blocage comme ça. Leur partenaire ne comprend pas. Se dit, je fais ce que je peux pour elle. Je l'aime, je l'écoute, je fais ce qu'elle me demande et malgré tout, ça va pas bien. Quelquefois, il y a des femmes, malheureusement, c'est pas si rare, qui ont eu des attouchements ou des remarques ou quelque chose de désagréable qui peut laisser une cicatrice. Donc, en parler, ça peut aider. Bon, ça, c'est une piste. Hein.
Je me suis plaint. Bon, envers elle, déjà, je l'ai expliqué, mais jusque-là, elle m'avait pas donné de solution. Mais j'espère qu'aujourd'hui, même elle est à l'écoute de l'émission, peut-être à travers vos conseils, elle pourra s'appliquer. Mmh. Parce que ça fait un mois déjà, je ne suis pas à ses côtés. Je suis en vacances précisément à Kishilougou, chez mes parents. Je l'ai laissé à Conakry là-bas. Je sais parce que hier, lorsqu'on m'avait appelé pour m'avertir que je vais passer aujourd'hui à l'émission, je l'ai dit d'écouter l'émission à partir de 9h10, temps universel.
Et bien, on attend ses retrouvailles. Elle doit les attendre à vous écouter en ce moment à la radio.
Elle peut
alors
nous appeler aussi si elle veut, hein. Si elle a des questions à nous poser. Et en tout cas, je lui dirais à elle, chouchoutez-le autant qu'il vous chouchoute.
Voilà, voilà ce conseil, cet encouragement. Junior, excellente journée à vous en Guinée, à Conakry. On part tout de suite rejoindre une auditrice en République démocratique du Congo à Goma, c'est Mia. Bonjour Mia.
Et bonjour docteur, bonjour.
Catherine Solano est à votre écoute, allez-y.
Alors, comme je l'ai dit, moi, c'est Mia, je suis à Goma, et je suis mariée à 8 ans maintenant, et nous avons 5 garçons ensemble. Maintenant, j'ai un bébé d'un mois. Mm-hmm. On est mariés, on était plus bien, et si je fais dire un peu, et on n'avait pas vraiment d'expérience, trop d'expérience sexuelle.
Mia, excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus loin de l'appareil? Parce que là, c'est très, très sourd, comme si vous aviez un peu la bouche collée au téléphone. Éloignez-vous un tout petit poil, je pense qu'on va vous entendre un petit peu mieux.
Et là, ça va?
C'est mieux. Donc, vous nous avez dit, vous avez 5 enfants, un bébé. Allez-y, on vous écoute.
Oui, 5 enfants. Maintenant, un bébé, le 5e. Et on n'a pas eu trop d'expérience, hein. C'est avant le mariage. Maintenant, 8 ans de mariage. Et j'ai 33 ans, lui 39 ans. Et nous sommes tous des catholiques pratiquants, vraiment. Alors, vu la religion et tout, on n'a pas vraiment eu de trop de pierres, quoi. Maintenant, là, ça fait 8 ans. J'ai l'impression que c'est toujours moi qui fais le premier pas. qui m'intéresse à ce genre d'informations, pour tirer, comment faire. Comme Junior vient de le dire là, c'est le contraire, moi c'est le contraire de Junior.
Mm-hmm.
Il y en a dans le mariage. Alors, ce qui me fait mal est que maintenant, je suis au bout. Ça fait au moins 2 ans que je sens que je suis au bout. Et je ne sais pas, est-ce qu'il faut encore en parler, il faut toujours préparer. J'ai l'impression que c'est un désir qui est d'un côté seulement.
Voilà, un désir de votre part, pas de sa part. Peut-être une question aussi, vous nous avez dit, vous avez 33 ans, donc vous êtes jeune, 5 enfants. Vous prenez une contraception ou pas?
Non, non, c'est naturel parce que
Parce que vous aviez dit avec avec la religion, mais est-ce que vous voulez d'autres enfants ou pas?
Si, moi j'ai pas de problème parce que les enfants sont... Il n'y a pas vraiment de problème.
Il n'y a pas de problème. Et lui aussi, il veut d'autres enfants?
Oui, mais pas trop rapproché.
Pas trop rapproché. Ouais. Voilà. Alors, je donne la parole tout de suite au docteur Catherine Solano.
Oui, alors, déjà, votre témoignage est vraiment intéressant parce qu'on a souvent l'impression que c'est toujours les hommes qui ont envie et les femmes n'ont pas envie. Or, effectivement, il y a des couples où c'est plutôt le mari qui a du mal à demander à faire l'amour à sa femme, à aller vers elle. Je me rappelle d'un couple comme ça, très catholique aussi, elle me disait, mon mari m'a jamais demandé une seule fois à faire l'amour en 5 ans de mariage, c'est toujours moi. Et j'en ai ras le bol. Donc, ce que disait Caroline, c'est peut-être important, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure, c'est que déjà, peut-être que votre mari a un petit blocage si lui se dit, on a beaucoup d'enfants, on a déjà 5 enfants, si on arrive à 7 ou 8 enfants, non pas parce qu'il aime pas les enfants, hein, ni qu'il aime pas ses enfants, mais parce que c'est angoissant, parce qu'il faut les élever, il faut les nourrir, il faut peut-être qu'ils fassent des études, qu'ils se débrouillent dans la vie, et c'est quelque chose qui pèse énormément sur le dos des hommes qui, eux, se sentent souvent responsables du, disons, de l'aisance financière de la famille, vous voyez, et de qui se sentent responsables de tout ça. Est-ce que vous lui avez posé la question?
C'est ce que j'ai observé aussi. Ça fait 2 ans que je suis une anéthique, je fais du récit parce que j'ai fait aussi la psychologie. Et j'ai observé ça. Quand il rentre du boulot, il est tellement fatigué et il a seulement une chose en tête, c'est dormir.
Il a le poids du travail et peut-être des préoccupations qu'il a pendant son activité professionnelle. Qu'est-ce qu'on peut dire justement à Mia pour qu'ils puissent avoir tous les deux essayer de se retrouver? On a l'impression que finalement tout ce qui se passe dans la famille, ça les a éloignés l'un de l'autre.
Oui, ce que je trouve important, c'est de se dire... dans une famille comme ça, avec des enfants, où le couple est en minorité finalement par rapport aux enfants, ils sont que 2 par rapport à 5, c'est très important de cultiver la sexualité, et pas que la sexualité, l'intimité du couple et l'harmonie du couple. Pourquoi? Parce que quand on a 5 enfants, on a une envie, c'est qu'ils soient heureux. Et pour que les enfants soient heureux, le plus important, c'est que les parents s'entendent bien, que les parents soient proches, que les parents se fassent des câlins et qu'on donne un modèle aux enfants d'un couple qui s'entend bien. Parce que si vous voulez, quand ils vont grandir, eux aussi formeront un couple et c'est d'autant plus facile qu'on a vu ses parents s'entendre bien et avoir une harmonie, être proches. Donc, je pense que pour les parents qui sont vraiment très investis dans l'éducation, dans le soutien des enfants, dire que la sexualité c'est important pour les enfants, même si on leur montre pas et qu'on leur en parle pas beaucoup, que ça soit un lien fort entre les parents, voyez. Et du coup ça veut dire qu'il faut par moment que la sexualité soit une priorité, se dire il faut. Je me rappelle d'un couple qui avait 10 enfants, il disait nous une fois par semaine on sort tous les deux et c'est notre soirée, les enfants n'ont pas le droit d'entrer dans la chambre d'hier, sinon on ne pourrait pas continuer. Il faut qu'on repousse les enfants et qu'on se donne un temps pour nous, au moins une fois par semaine. Parce que sinon, on se fait manger par le travail, le ménage. Vous disiez que vous faites des fois le ménage très tard. Enfin, vous voyez, on n'a plus le temps de se retrouver, alors que c'est ça le cœur du couple. C'est encore plus important.
Voilà, Mia, pour ces conseils du docteur Catherine Solano.
Peut-être prendre rendez-vous avec votre mari, du coup, pour faire l'amour. Lui dire, on n'a qu'à faire l'amour tel jour, à telle heure. Ça marche souvent très bien quand on est débordé.
Ce qu'on appelle des rendez-vous galants.
Voilà.
Une très bonne journée à Goma, Mia. On va rejoindre le Mali, la ville de Gao, avec Fatou qui est en ligne avec nous. Bonjour Fatou.
Bonjour.
On est à votre écoute. Le docteur Catherine Solano vous écoute. Allez-y.
Bonjour docteur.
Bonjour Fatou.
Au fait, moi je suis mariée depuis 1 an 6 mois. Et... je ne m'épanouis pas trop parce que mon mari, Je ne sais pas comment le dire. En fait, il y a beaucoup de choses qu'il n'aime pas faire. D'abord, il n'aime pas trop que je touche son sexe. Il n'aime pas toucher mes seins, ni les tétés. Il y a beaucoup de positions, même, il n'aime pas. Il est un peu bloqué. Il dit que par rapport à la tradition, à la religion, ça, c'est pas bon. Déjà, moi, j'y crois pas. Parce qu'il m'a une fois dit que quand il s'est infligé des enfants, mes enfants vont refuser de prendre le sein, quoi. Et il croit tellement à ça qu'il n'y touche pas. Et il est trop sérieux. Mon problème, c'est qu'il est trop sérieux quand on fait l'amour. C'est comme s'il est venu faire un service et repartir.
Moi, j'ai une question, à vous poser, Fatou. Quand il est tombé amoureux de vous, votre mari, il a aimé votre côté, justement, que vous ayez cette joie de vivre, toute cette envie en vous. Vous lui dites, justement, tu m'as aussi choisi parce que je suis quelqu'un qui aime la vie. Tu vas pas me demander aujourd'hui de devenir quelqu'un de tout renfermé qui a rien envie de faire.
En fait, quand on s'est rencontrés, on se serrait même pas la main parce qu'avec la religion, on n'a pas le droit de se toucher ni de avant le mariage.
Oui.
Donc, on a tout fait pour se retenir jusqu'au mariage. Mais après, moi, je pensais que ça allait passer. Parce que moi, en fait, avant lui, je connaissais déjà l'amour. Et lui, il sait ça. Moi, je ne sais pas si c'est à cause de ça qu'il est un peu réservé ou quoi. Mais j'en parle avec lui, je l'explique que ça, c'est pas comme ça, on doit s'épanouir, on doit faire tout ce que l'on veut. Mais bon, jusqu'à présent, il a des limites.
Docteur Solano.
Oui, alors j'aurais plein de choses à vous dire. Déjà, quand j'ai des patients qui sont très religieux, comme votre mari, et qui utilisent un peu la religion peut-être comme excuse parce qu'ils sont un petit peu bloqués ou qu'ils ont peur, je leur dis, mais même si vous croyez que Dieu nous a créés, il nous a créés avec un sexe, on se marie religieusement, c'est pour s'épanouir, c'est pour en bénéficier de la sexualité, c'est pas pour l'éviter. Donc le plus beau, c'est de s'épanouir entre mari et femme. Donc quelquefois, je dis à mes patients, trouvez un religieux dans votre religion qui soit capable de dire à votre mari éventuellement, mais vous savez, il faut épanouir votre femme, c'est important pour que le couple soit solide aussi, parce que si on est mal dans son couple, ça va pas bien se passer après, que ça soit pour des enfants et pour la durée du couple. Donc quelquefois, il y a des religieux qui sont super pour ça. Moi, j'en ai connu dans plusieurs religions. Ça dépend, il y en a qui sont plutôt très stricts, mais c'est pas une question d'être strict d'ailleurs, c'est une question de prendre en compte notre humanité, notre désir et la sexualité, ça fait partie de nous aussi. Donc ça, je pense que c'est important. Ensuite, deuxième chose, ça fait que 1 an et 6 mois que vous êtes mariés. Bon, vous vous sentez pas épanoui, votre mari est bloqué, mais rien n'est perdu, je dirais. Souvent, c'est avec le temps, petit à petit, qu'il faut décoincer votre partenaire, que ce soit un homme ou une femme. Je me rappelle, il y a quelques mois, on a eu un auditeur comme ça qui nous disait, ça fait 6 ans que je suis mariée à peu près de mémoire, ma femme était très coincée, mais petit à petit, j'ai réussi à la décoincer, maintenant on est très épanoui. Donc je me dis, ce qu'il faut, si vous voulez, c'est ne pas le aller carrément contre lui de force en lui disant, mais si, il faut que tu fasses ça parce qu'il va se crisper, mais faire un tout petit peu plus, petit à petit, pour qu'ils s'aperçoivent que vous êtes bien et qu'il n'y a pas de problème, vous n'allez pas aller en enfer parce qu'ils vous touchent les seins, quoi, par exemple. L'histoire des bébés qui veulent pas téter le sein, si le mari touche les seins ou les suces ou les têtes, il y aurait aucun bébé au monde qui prendrait le sein si c'était vrai, hein. Il y a absolument aucun problème. Les seins, c'est à la fois un organe sexuel qui est très important dans la sexualité et à la fois un organe fait pour l'allaitement. L'un n'empêche pas l'autre, c'est pas gênant du tout. Faut réussir à le convaincre, hein, c'est pas évident. Et donc je pense que il vous disait aussi, il n'aime pas que je touche son sexe. Eh bien, il faut que vous continuez à le toucher, mais très légèrement, un tout petit peu, pour que petit à petit il s'habitue et en faire de plus en plus. Vous voyez, pareil, vous mettez sa main sur vos seins, mais juste en passant comme ça, pour que petit à petit ça devienne naturel.
Patience et confiance.
Oui, patience et confiance.
Voilà, Fatou, très bonne journée à vous. Au Mali, à Gao, on poursuit cet échange avec vous, docteur Catherine Solano, pour répondre à toutes les questions des auditrices et des auditeurs de Priorité Santé. On parle de la sexualité épanouie et justement, on continue ces réponses sans tabou à toutes nos questions sur RFI.
Priorité Santé. Sur RFI.
On vous retrouve, docteur Catherine Solano.
avec les questions tout de suite. La question de Pierrot qui est au Gabon à Port-Gentil. Pierrot qui est avec nous. Bonjour Pierrot.
Oui, bonjour RFI, bonjour Prévôté Franté.
Docteur Solène,
oui. Oui, je voudrais intervenir cette fois-ci pour poser quelques questions au docteur Solanon.
Oui, allez-y.
Alors, j'ai la soixantaine très proche, ma femme également, nous nous connaissons depuis environ une quarantaine d'années, mais depuis, on va dire quoi, un an et demi, nous avons une sexualité vraiment très, très, très catastrophique. Bon, au départ, je croyais que c'était dû au fait qu'elle avait perdu un être cher, mais quand même, après plusieurs mois, je ne comprends pas toujours que nous n'avions pas retrouvé le rythme que nous avions à l'époque. Donc, ça fait pratiquement 10 mois que j'ai pas de relation sexuelle avec mon épouse. Chaque fois, c'est haute attention, j'ai la tension, j'ai l'estomac qui fait mal, quand c'est dans les meilleures situations. Hein.
Et Pierrot, votre épouse a le même âge que vous ?
Oui, à peu près, oui.
À peu près. Docteur Solano ?
Oui. Oui, alors déjà, je vais vous dire une chose qui me frappe dans votre témoignage, c'est que vous dites « elle a perdu un être cher ». C'était quelqu'un de sa famille, j'imagine ?
Oui, c'était un de ses géniteurs.
Ah oui, d'accord. Et donc, ça, c'est très fréquent, après un décès d'un proche de quelqu'un qui nous est cher, justement, qu'il y ait des problèmes avec la sexualité. Parce que c'est comme la sexualité, c'est le geste qui donne la vie, c'est comme si tout d'un coup, notre esprit se disait « mais ça sert à rien de donner la vie puisqu'on meurt ». Il y a quelque chose comme ça. D'autre part, il y a beaucoup de personnes, moi je vois très souvent ça en consultation, qui après le décès d'un proche, d'un parent, d'un frère ou d'une sœur ou d'un enfant, évidemment, ont une dépression. Donc, et la dépression, ça peut durer 6 mois, 1 an, 2 ans. Donc, je me demande si c'est pas une piste, si votre femme a pas plus ou moins une dépression, même si c'est pas une dépression forcément très grave. Un des premiers signes de la dépression, c'est de plus avoir de désir sexuel. Donc, y a peut-être quelque chose de ce côté-là.
Pierrot, est-ce qu'elle vous fait part de ses idées sombres, que ça ne va pas bien, justement ?
Pardon ?
Est-ce que votre épouse vous fait part de ses idées sombres, justement, ses états d'âme, qu'elle se sent triste ou qu'elle se sent déprimée ?
Tout à fait, tout à fait. La meilleure, c'est que j'y ai songé dès le début et j'avais quand même proposé la solution du psy. Elle s'y est catégoriquement opposée. Mm-hmm. Mais là, franchement, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour que les choses se normalisent. Moi, ce qui m'embête le plus, c'est que dans les moments de colère, quand on est un peu fâché, ouais. Elle va jusqu'à avancer des choses un peu graves. Alors moi, je voudrais demander au docteur Castellano, en dehors de me proposer une solution du psy qui risque de ne pas marcher du tout, est-ce qu'il n'y a pas une autre solution que nous pourrions éventuellement adopter?
Alors, ben disons que c'est pas facile parce que si, mais peut-être que vous pourriez lui dire tout simplement, je pense que tu es déprimé depuis le décès de cette personne et que tu n'as pas le moral et que c'est pour ça que tu as plus envie de faire l'amour. Et dans ces cas-là, lui dire, écoute, on n'est pas obligé de faire l'amour, il faut qu'on se fasse des câlins parce que tu as besoin de, parce que si vous voulez, dans la sexualité, il y a le rapport sexuel, la pénétration, mais il y a aussi le contact peau à peau. Donc c'est lui dire, viens contre moi, même tout nu, vous voyez, peau à peau, de manière à lui faire du bien psychologiquement, vous voyez, ça c'est important. Une question aussi quand même importante, c'est que si elle a à peu près une soixantaine d'années, lui demander, est-ce que tu as des douleurs quand on a un rapport sexuel ? Parce que si vous voulez, après la ménopause qui est aux alentours de la cinquantaine, souvent au début ça se passe bien et en quelques années, en 4, 5 ans, ça dépend des femmes, il peut y avoir une sécheresse vaginale. Et quand une femme a mal pendant la pénétration, qu'elle sent que c'est difficile, que c'est douloureux, elle peut après avoir moins de désir parce qu'elle a peur d'avoir mal. Donc des fois, il suffit d'en parler, d'utiliser pas mal de lubrifiants pour que déjà ça soit plus facile à ce niveau-là. Ça c'est encore une autre chose. Et puis troisième élément, à part la dépression, la lubrification, c'est... vous dites, moi j'aime toujours ma femme, c'est formidable quand même d'avoir un mari comme ça après 40 ans de mariage, donc de lui dire qu'elle est belle, que vous l'aimez, que vous la désirez, pour lui faire du bien aussi. Et ça stimule le désir féminin.
D'accord.
Hein, voilà pour
ces. Je vais essayer et il n'est pas exclu que après quelques temps, je vous rappelle pour vous faire un peu le point.
D'accord, avec plaisir.
Très bien, Pierrot. On pourra justement vous rappeler si vous nous laissez un message sur la page Facebook de l'émission. On vous souhaite une excellente journée à Port-Gentil. On part pour Pointe-Noire, le Congo-Brazza. Où est Edmond, bonjour.
Bonjour, madame.
Le docteur Catherine Solano vous écoute. Allez-y.
Bonjour, Edmond.
Bonjour, docteur. Moi, j'ai juste deux inquiétudes, deux questions, disons. Mm-hmm. Quand j'avais une petite amie, on s'est séparés après 2 ans, après notre séparation, 2 ans, je me suis laissé tomber dans la pornographie. Après ces 2 ans-là, j'ai eu une nouvelle petite amie, on a commencé une nouvelle aventure. Mais quand souvent on passe à l'acte sexuel, j'ai du mal vraiment à désirer la personne qui est en face de moi. J'ai plus de fantasmes sur les images porno que je me suis mis à regarder pendant ces 2 ans. Mm-hmm. Et j'aimerais savoir comment vraiment faire pour oublier ces images-là et désirer plus la personne qui sera en face de moi.
Edmond dit quelque chose de très intéressant, parce que quand on entend ce témoignage, on a vraiment le sentiment qu'il veut se défaire, quasiment, on peut dire, quasiment d'un traumatisme.
Oui, parce que en fait, quand on regarde des images pornographiques, ben, ça crée des nouveaux circuits dans le cerveau. Il y a des images qui s'impriment, ben, comme ce qu'on voit dans la vie, en fait. Hein. Et du coup, ça s'active, comme c'est souvent des images plus excitantes que la vraie vie, parce que c'est complètement exagéré, complètement faux et mis en scène, c'est plus puissant au niveau de l'excitation. Et du coup, ça peut faire, il y a beaucoup d'hommes qui disent « j'ai du mal à avoir des érections, j'arrive plus à avoir des excitations depuis que je regarde de la pornographie ». Bon, la bonne nouvelle, c'est que en général, là, peut-être que vous continuez, je dirais, en pointillé, même si vous le faites plus beaucoup vu que vous êtes en couple. La meilleure solution, c'est d'arrêter complètement de regarder des images pornographiques, parce que petit à petit, les circuits s'éteignent. Vous voyez? Et c'est important de ne pas en regarder, même pour la masturbation, et que si vous pratiquez la masturbation en dehors du couple, de faire en pensant à votre ami. Au début, ça marchera peut-être un peu moins bien, mais petit à petit, ça va revenir.
Est-ce que vous avez complètement arrêté, Edmond, ou est-ce que ça vous arrive encore d'en regarder?
Ça m'arrive toujours un peu de regarder.
Donc, ce que vient de dire le docteur Catherine Solano se confirme.
Voilà, parce que même un petit peu, hop, ça réactive les circuits. C'est comme la drogue, si vous voulez. Moi, je connais un monsieur.
Un sevrage.
Il a arrêté pendant 40 ans de fumée. Il a repris une cigarette. En 8 jours, il était à 3 paquets par jour. C'est simple. Ça réactive les circuits. Donc, c'est ça le problème. Ouais.
Voilà, Edmond, ce conseil donc d'arrêter complètement, hein, si vous voulez changer les choses. C'est pas un conseil moral, c'est simplement si vous voulez changer, vous pouvez faire ça.
Ouais,
voilà.
Et souvent, mes patients, en 15 jours, 3 semaines, me disent ça va déjà beaucoup mieux. Alors, ça dépend ce qu'on a regardé, ça dépend pendant combien de temps, à quelle fréquence, mais souvent, moi, je craignais toujours qu'il faille 6 mois, 1 an, mais non, en quelques semaines, souvent, ça va mieux.
Très bonne journée à Pointe-Noire, Edmond. On part pour le Togo, pour Lomé. Joseph en ligne avec nous. Joseph, bonjour.
Bonjour, Catherine.
Bonjour, Joseph.
Docteur, au fait, moi, j'ai 2 questions. La première est à laquelle, bien avant que ma partenaire et moi vivions ensemble, on avait des relations sexuelles parfaitement bien, quoi. Et puis, depuis 3 ans, nous essayons d'avoir des enfants. Les relations sexuelles ne sont plus maintenant sa tasse de thé. C'est-à-dire qu'elle ne les aime pas. Et puis, ce que j'ai remarqué, c'est que après les ovulations, quand on fait l'amour, elle a très mal. Très mal, je ne comprends pas quoi. Mm-hmm. C'est pas assez dur quoi. Est-ce que le fait de vouloir avoir des enfants fait que, et quand la femme n'arrive pas à concevoir, fait que ça bloque son désir sexuel? Vraiment quoi.
Au bout de combien de temps, Joseph, vous vous êtes dit dans votre couple, on n'arrive pas à avoir un enfant?
Oui.
Au bout de combien de temps?
Déjà, ça fait 3 ans.
Ça fait 3 ans, oui, mais au début, vous avez pris cette décision. Maintenant, ça fait longtemps qu'on est ensemble, on veut ce bébé. Donc, il a fallu 1 mois, 2 mois, 3 mois pour que vous commenciez à vous inquiéter d'une possible infertilité. Ou ça a pris 1 an, 2 ans?
Ça a pris plus d'un an. Hein.
Plus d'un an.
2 ans.
Et pendant la première année, justement, où vous vouliez faire un bébé et vous n'aviez pas conscience qu'il y a un problème, ça se passait bien?
Ça se passait normalement bien, quoi.
Ah oui, c'est ça.
Donc, c'est à partir du moment où on va dire les choses simplement, vous avez fait l'amour pour avoir un bébé, que ça a commencé à se compliquer, et non plus pour faire l'amour.
Oui,
docteur Solano.
Oui, c'est ça, c'est que il y a plusieurs choses. Ce que dit Caroline, c'est très important. Quand on commence à ne plus faire l'amour parce qu'on en a envie, mais sur commande, en se disant « aujourd'hui, c'est un bon jour, allons-y », et ben c'est plus tellement agréable, c'est plus quelque chose qui se fait par impulsion, mais sur calendrier, je dirais.
Surtout quand la femme regarde, par exemple, ses jours d'ovulation, etc.
Voilà, ben c'est ce que font toutes les femmes quand elles veulent un bébé et que ça n'a pas marché les premiers mois. Voilà. Mmh. Soit ça vient tout... Voilà. Et du coup, ça peut devenir très pesant parce qu'on se dit « Ah, je suis fatiguée ce soir, mais il faut faire l'amour, c'est le bon jour. » Et donc, forcément, c'est pas tellement agréable. Donc... Et je connais un collègue qui disait à ses patients, un collègue, ses patients faisaient l'amour tous les jours, en se disant comme ça, on va bien finir par avoir un bébé. Il leur a dit, je vous interdis de faire l'amour jusqu'à ce que vous en ayez envie. Ils ne l'ont pas fait pendant un mois. Au bout d'un mois, ils ont fait l'amour une fois et elle a été enceinte. C'était une petite histoire, mais c'est pour dire que le faire que pour ça, c'est pas une bonne idée. La deuxième chose quand même, c'est que peut-être qu'elle est déprimée, votre amie aussi, parce que quand on est déprimé, eh ben, on n'a pas envie. Et donc, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là.
Et puis une autre question, peut-être, Joseph aussi. Est-ce que du fait que vous n'ayez pas réussi à avoir un enfant au bout de 3 ans, est-ce que vous avez consulté pour ça ou pas?
Oui, justement, on a consulté. Ce qu'on nous a dit, c'est qu'elle a un fibrome utérin. Mmh. Mais j'aimerais savoir, est-ce que c'est ce fibrome qui fait qu'après ses ovulations, elle ressent mal au niveau de l'abdomen?
Ça, c'est difficile à vous dire comme ça, parce que ça fait pas forcément mal après un rapport sexuel, un fibrome. Je peux pas trop vous dire.
Est-ce qu'elle a vu un gynécologue qui a justement pu échanger avec elle à ce sujet?
Oui, 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 justement.
Et qu'est-ce qu'il lui a dit?
Et il a parlé, comment on appelle, des fibromes, que c'est ça qui est en train de causer ça, quoi, que après les ovulations. Surtout, j'ai remarqué le mal qu'elle ressent après, c'est après ces ovulations qu'elle ressent
et
ce mal.
Et elle saigne beaucoup ou...
Elle ne saigne pas du tout.
Non.
Elle saigne pas du tout, franchement, non.
Et on lui a proposé de l'opérer ou de faire quelque chose ou de lui donner un traitement ou...
On lui a proposé de lui faire un traitement, quoi. Mmh.
Alors, moi, ce que je trouverais important, je reviens plutôt au plan psychologique, là, parce que là, si elle est suivie par un gynécologue, c'est qu'il faut lui dire que vous êtes malheureux et que vous avez l'impression qu'elle ne vous aime plus. C'est important parce que des fois, on n'ose pas dire ça et que vous êtes malheureux. Parce que si vous continuez tous les deux à avoir envie d'avoir un enfant, il faut que ça aille bien entre vous aussi, parce que c'est quand même dommage de faire un bébé en n'ayant pas envie de faire l'amour, quoi, voyez. Donc, dites-lui ce que vous ressentez, dites-lui, j'ai l'impression que tu veux plus de moi, est-ce que tu veux vraiment qu'on ait un enfant ensemble?
Mais en tout cas, il faut régler cette question de douleur aussi.
Bien sûr, il faut régler la question de douleur, du fibrome, de la fertilité, etc., c'est sûr.
Voilà, donc il y a vraiment une question médicale aussi qui est directement associée. C'est pour ça qu'il faut certainement retourner voir le gynécologue afin qu'il trouve une solution pour justement limiter les souffrances de votre épouse. Voilà, Joseph, pour cette question. Vous souhaite une excellente journée à Lomé au Togo. Le temps passe très très vite. On va prendre un autre auditeur. Ce sera peut-être le dernier. C'est Victor qui est en ligne de Kinshasa en RDC. Bonjour Victor.
Bonjour Caroline, bonjour docteur.
On est à votre écoute, allez-y.
Bon, moi j'ai un problème avec ma petite amie. Ça fait traiter 6 ans qu'on vit ensemble. Auparavant, quand on faisait nos rapports sexuels, elle me disait toujours merci, je suis tellement épanouie. Tous nous étions contents de ce qu'on faisait comme acte. Maintenant, ça fait presque une année, je n'arrive pas à la satisfaire ou à l'épanouir dans nos relations sexuelles. Donc, je ne prenne pas beaucoup de temps ou moins de 10 minutes, moins de 5 minutes d'ailleurs. Je suis presque au bout de mes sentiments, mais à la fin, elle me dit toujours que je ne suis pas satisfait, tu dois au moins prendre un peu du temps pour que moi aussi j'arrive à être satisfait. Mais ça commence un peu à m'inquiéter parce que je vois que la femme ou ma petite amie, il s'inquiète à chaque fois que nous faisons un rapport sexuel. Je ne sais pas s'il y a un conseil que je peux avoir auprès du docteur.
Victor, j'ai une question avant de donner la parole au docteur Solano. Il s'est passé quelque chose dans votre vie, vous dites, il y a un an, ça dure depuis une année. Il s'est passé quelque chose de précis?
Non. Il n'y a pas un problème, quelques problèmes qui s'est passé.
C'est venu comme ça du jour au lendemain?
Oui.
Vous n'avez pas changé une habitude? Il n'est pas arrivé quelque chose dans votre famille? Un choc? Quelque chose? Vous n'avez pas une maladie chronique? Rien du tout? Il n'y a rien de cet ordre-là?
Il n'y a rien du tout. D'ailleurs, on a même un enfant avec elle. Donc, je ne sais pas. Maintenant, je prends beaucoup mon temps de sortir, revenir au moins le soir. Je ne prends plus le temps comme auparavant avec ma petite amie. Ça arrive que s'il me demande même de faire des rapports sexuels, je ne sais pas ce qu'il me demande, mais de moi-même, je n'ai pas assez de ces sentiments-là. Et je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé, mais ça commence moi-même.
Vous ressentez moins de désir aussi pour elle, alors?
Oui, je sens moins de désir sur le plan sexuel, mais pas pour la personne.
Vous avez autant de sentiments, mais moins de désir?
Oui.
Et quel âge avez-vous?
J'ai 30 ans. D'accord. Et ma petite amie a 26 ans.
D'accord. Et donc, ce que j'entends, est-ce que vous avez un problème d'érection qui est moins bonne, ou plutôt un problème d'éjaculation qui est trop rapide, ou les deux?
C'est le problème de réaction qui est moins, c'est le problème de réaction qui est moins.
D'accord,
moins d'érection.
L'érection est moins bonne. Parce que alors, des fois, l'érection est moins bonne, tout simplement parce qu'une fois, on a eu une petite panne qui n'a pas très bien marché et on est un peu stressé la fois d'après. Du coup, ça se passe moins bien. Si votre partenaire vous dit « mais c'était pas bien aujourd'hui », vous êtes encore plus stressé, c'est un cercle vicieux. Quand il se produit quelque chose comme ça, si on ne fume pas, qu'on fait de l'exercice physique, parce que ça, c'est important aussi. Le tabac, c'est catastrophique pour l'érection, mais je le redis pas encore une fois. Quand c'est ça, l'idéal, c'est de demander à son médecin un médicament. Enfin, l'idéal, le plus efficace, je dirais, le plus rapidement efficace, c'est de demander un médicament pour l'érection et de le prendre quelques fois, une dizaine de fois, même à votre âge en général, ça suffit. Ça relance l'érection, ça redonne confiance. Votre partenaire vous dit « Ah, c'était mieux aujourd'hui ».
Ce ne sera pas un médicament à vie, hein. C'est pour une courte durée.
Juste pour, je dis, une dizaine de fois peut-être, voilà. Voilà. Mmh. Et souvent, ça va beaucoup mieux après.
Victor, vous pourriez consulter justement pour avoir ce type de traitement?
Oui, oui. Alors, je peux aller me consulter, mais peut-être avec vos conseils, je peux aller parce qu'auparavant, je me disais, bon, avec les produits, on m'a déjà parlé de prendre un médicament,
si c'est quelque chose qui vous préoccupe.
Voilà. Et de toute façon, beaucoup d'hommes jeunes n'osent pas consulter en se disant, à mon âge, on prend pas des médicaments comme ça, c'est pour les hommes âgés. Ben non, c'est pour les hommes jeunes, mais c'est juste un petit starter pour vous aider à redémarrer.
Voilà beaucoup. Merci beaucoup, Victor. Je me mélange les pinceaux. On vous souhaite une très bonne journée à Kinshasa, en République démocratique du Congo. C'est passé très vite, hein, comme d'habitude, docteur Catherine Solano. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions de nos auditeurs. On va vous retrouver jeudi prochain. D'autres conseils, hein, dans Priorité Santé, et toujours vos questions sur la page Facebook de l'émission. À très bientôt, Catherine.
À bientôt, Caroline. À bientôt à tous nos auditeurs.
Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui prépare, réalise votre émission. Ophélie Lassène, Juliette Brault, Victor Hull, Laurence Snow aujourd'hui. Demain, dans Priorité Santé, nous allons consacrer une émission à la maladie à virus Ebola pour faire le point sur la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. On attend, bien sûr, comme chaque jour, vos questions, vos témoignages. 33 1 84 22 75 75. À demain. D'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.